Merci de nous écouter. Le journal, c'est vous, Sébastien Paour. Bonsoir, Sébastien.
Bonsoir à tous. C'est la crise climatique dont vous n'avez pas entendu parler. Les glaciers de l'Himalaya aussi sont touchés par le réchauffement. Un tiers d'entre eux aura fondu avant la fin du siècle, avec des conséquences pour près de 2 milliards de personnes jusqu'au Gange et au Mékong. Un nouveau grand débat pour Emmanuel Macron avec des élus de banlieue dans l'Essonne. Nous sommes en direct d'Évry-Courcouronnes. Au sommaire également ce soir, ces députés En Marche qui ne voteront pas demain la loi anti-casseurs. Juan Guaido qui engrange les soutiens européens, nous serons à Caracas. Le pape qui plaide pour la liberté religieuse à Abu Dhabi. Une famille bloquée par la neige dans l'Hérault. La mairie est bien embêtée. Et au téléphone sonne Fabienne.
Bien, la France doit-elle revoir intégralement ses dispositifs de maintien de l'ordre? Le LBD, lanceur de balles défense, a donc été confirmé par le Conseil d'État vendredi. Mais qu'est-ce qu'on fait avec le maintien de l'ordre? Faut-il tout revoir, les moyens, les pratiques, les formations? Est-ce que cette loi anti-casseurs qui est votée demain et qui est très loin de faire l'unanimité va nous aider à y voir plus clair? On en parle ensemble au 01 45 24 7000.
Les scientifiques l'appellent le troisième pôle, 3500 kilomètres de montagnes qui s'étendent de l'Afghanistan à la Birmanie, en passant par l'Inde, le Népal, la Chine, où se trouvent les plus hauts sommets du monde, dont l'Everest, mais dont au moins un tiers des glaciers pourraient donc fondre d'ici à la fin du siècle. Bonsoir Sandy Dauphin.
Bonsoir.
Plus de 350 scientifiques se sont penchés pendant 5 ans sur cette région de l'Hindu Kush Himalaya, où le réchauffement climatique risque d'avoir de très lourdes conséquences.
Oui, dans le scénario optimiste, 30% de ces glaciers disparaissent. Dans le scénario pessimiste, c'est 60%. Alors la fonte n'est pas uniforme, moins prononcée dans le nord du Pakistan et l'ouest du plateau du Tibet qu'au Bhoutan et au Népal, dans le sud-est de la chaîne himalayenne. Quant au sommet mythique, l'Everest, le K2, à plus de 8000 mètres d'altitude, ils sont plus à l'abri. Patrick Vagnon est glaciologue, il n'a pas travaillé sur ce rapport, mais l'Himalaya est son terrain d'étude et la situation le préoccupe.
La situation actuelle est moins préoccupante que dans la majeure partie des montagnes du monde, mais pour autant, avec les projections sur l'ensemble du siècle à venir, on s'attend à une décrue glaciaire extrêmement importante. On a à peu près 50 fois plus de glaciers en Himalaya que dans les Alpes. Donc il y aura un impact qui potentiellement sera nettement supérieur à ce qu'il y a dans les Alpes.
Oui, d'après l'étude publiée aujourd'hui, la disparition des glaciers de l'Himalaya aurait un impact sur plus d'1,5 milliard d'habitants qui vivent en aval, car les glaciers sont vitaux pour l'eau potable, l'irrigation ou l'hydroélectricité des vallées, sans compter un danger plus immédiat.
Quand la surface des glaciers diminue, très souvent il y a des lacs qui se forment. Ces lacs qui sont retenus par des barrages de cailloux qui sont laissés par les glaciers quand les glaciers étaient plus grands, peuvent céder. Et donc on peut créer des vidanges brutales qui créent des laves torrentielles.
Des laves torrentielles, des coulées qui charrient de l'eau et des roches qui menacent des populations déjà démunies et surtout mal préparées au changement climatique.
Et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, merci Sandy. Autre étude, autre coin de la planète, mais mêmes inquiétudes. Le climat se réchauffe plus vite que partout ailleurs dans l'archipel des Svalbard au nord de la Norvège. Plus 3 à 5 degrés depuis les années 70, peut-être plus 10 degrés d'ici 2100, avec des risques là aussi d'avalanches et de coulées de boue.
L'Élysée voudrait que les quartiers se saisissent du grand débat.
C'est fait depuis cet après-midi dans l'Essonne, à une trentaine de kilomètres au sud de Paris. En tout cas, Emmanuel Macron participe de nouveau à un débat après l'Eure, le Lot et la Drôme. Il a d'abord visité, comme d'habitude et sans prévenir, une association qui s'occupe de citoyenneté et d'accompagner des familles à Évry. Et il échange depuis presque 2 heures maintenant avec des élus et des représentants d'associations à Évry-Courcouronnes. Bonsoir Claire Chaudière.
Bonsoir.
Claire, quels sont les sujets abordés dans cette ville de grande banlieue parisienne ?
Eh bien ici, depuis un peu plus d'une heure et demie maintenant, il est question d'insertion professionnelle, des subventions aux associations, du sentiment d'appartenance à la nation aussi, avec des prises de parole d'habitants comme Philippe, Isma ou encore Aïseta.
Tout n'est pas rose ici aussi. J'aimerais qu'on trouve ensemble, Monsieur le Président, une solution à cette question. Il s'agit des difficultés à trouver des stages et de l'alternance.
La mixité sociale qui était un objectif de nos villes nouvelles est de plus en plus remis en cause.
La fuite des enfants de classe moyenne vers les écoles privées est aussi évoquée, tout comme la question centrale du logement. Le président de la République pour le moment est resté très en retrait avec une brève intervention.
Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu forcément les mouvements les plus perceptibles que les quartiers dits politiques de la ville auraient dû être en dehors du débat, au contraire. Dans ces quartiers, les problèmes se sont vus et se sont exprimés peut-être depuis plus longtemps encore.
Voilà, un moment en forme de rendez-vous de la deuxième chance pour des associations et des élus en colère depuis un an et demi et le rejet du rapport Borloo sur lequel nombre d'entre eux avaient travaillé. Hélène Geoffroy, la maire de Vaux-en-Velin, y avait participé.
Je crains toujours qu'on oppose le monde rural et le monde des banlieues et c'est une inquiétude très forte que j'ai aujourd'hui qu'à la fin de toute cette période d'échange, les banlieues ne soient oubliées. C'est un rendez-vous qui était nécessaire.
Nécessaire, mais certainement pas suffisant pour le maire d'Allonne, ville populaire de la Sarthe.
Parole, et certains s'étonnent que les habitants des quartiers participent peu ou pas au grand débat national. Ils ont été échaudés. On peut comprendre une certaine désespérance, un vrai doute sur la capacité du président de la République d'entendre.
Un doute qui a même poussé certaines personnalités associatives invitées à se demander si elles ne boycotteraient pas l'événement. La plupart sont bel et bien présentes ce soir.
Claire Chaudière en direct d'Évry-Courcouronnes avec Georges Thau. Merci à tous les deux. Emmanuel Macron sera jeudi à Autun en Saône-et-Loire. Il rencontrera des élus du Morvan et débattra avec des jeunes. Le grand débat se poursuit et l'après se dessine et divise jusqu'au sein du gouvernement. Cette possibilité avancée par le journal du dimanche d'organiser un référendum pour sortir de la crise des Gilets jaunes le jour des élections européennes. Rien n'est décidé, mais des voix déjà s'élèvent contre, comme celle du chef de la diplomatie Jean-Yves Le Drian ce matin sur Inter, qui ne veut pas qu'on mélange les sujets le 26 mai. Emmanuel Macron reçoit depuis aujourd'hui les chefs de parti à l'Élysée pour en parler. L'autre sujet qui clive, c'est la loi anti-casseurs qui sera soumise demain aux députés en première lecture. C'est à la société de liberté qu'on s'attaque en restreignant le droit de manifester, pour l'avocat proche du président François Sureau dans un entretien au Monde. Et le marcheur ancien socialiste Aurélien Taché est sur la même ligne. Il ne votera pas la loi en l'état. Il le dit à nos confrères de France Info.
Dans une démocratie libérale, on a une règle qui est que la liberté individuelle doit être restreinte uniquement par la justice et une justice indépendante. Là, le texte prévoit à aucun moment que la justice ne puisse intervenir sous une quelconque forme dans les interdictions de manifester qui peuvent être prises par les préfets. Et donc un préfet, c'est le bras armé du gouvernement. Donc on peut très bien imaginer qu'un gouvernement mal intentionné sur la question des libertés utilise demain le texte qu'on fait voter aujourd'hui pour avoir une restriction excessive des libertés de nos concitoyens. Donc je suis très circonspect là-dessus. Le principe même d'avoir ces interdictions de manifester préventives faites par les préfets est quelque chose que je trouve discutable sur le plan des principes. Donc si on devait garder ça, il faut absolument que l'autorité judiciaire soit mise dans la boucle, qu'un juge puisse intervenir, ou au moins le procureur, à un niveau ou à un autre de la procédure d'interdiction.
Et au téléphone sonne Fabienne, il sera de nouveau question des lanceurs de balles de défense.
Absolument, loi anti-casseur aussi, lancement balles de défense. Est-ce qu'il faut tout revoir, notre système de maintien de l'ordre? Qu'est-ce qui ne va pas dans les moyens, dans les pratiques? On en parle ensemble au 01 45 24 7000. À 19h08, Sébastien, une nouvelle étape dans l'enquête pour fraude fiscale et trafic d'influence qui vise Thierry Soler.
Oui, une information judiciaire est ouverte. L'enquête est confiée à un juge d'instruction et elle concerne désormais 6 autres personnes. Bonsoir Sarah Guibaudot.
Bonsoir.
En plus du député En Marche, ancien des Républicains.
Oui, c'est justement le nombre de personnes et de sociétés mises en cause qui rendent les investigations plus complexes et justifient l'ouverture d'une information judiciaire, selon la procureure de Nanterre. Tout est parti d'un contrôle fiscal en 2012. Thierry Soler vient d'être élu député de droite. Il est aussi consultant en profession libérale. En 2016, Bercy porte plainte pour fraude fiscale. Thierry Soler se dit victime d'un cabinet noir de l'Élysée. Depuis, l'enquête s'est élargie à d'autres faits. La liste est même assez longue. Trafic d'influence, abus de biens sociaux, détournement de fonds publics et financement illicite de campagnes électorales, notamment. Et les révélations dans la presse s'enchaînent. Selon Le Monde, le député Soler aurait aidé des sociétés clientes à obtenir des marchés publics. Les enquêteurs s'interrogent sur le travail, réel ou pas, d'une de ses assistantes parlementaires et sur des opérations immobilières juteuses effectuées par Thierry Soler avec un promoteur immobilier. L'été dernier, sa garde à vue avait été interrompue sur avis médical. Les juges d'instruction auront sans doute de nouvelles questions à lui poser. Thierry Soler, toujours député sous l'étiquette La République En Marche, ne nous a pas répondu ce soir.
Et dans ce dossier, merci Sarah Guibaudot, l'ancien garde des Sceaux Jean-Jacques Urvoas s'est mis en examen pour violation du secret professionnel. Il aurait transmis des éléments sur l'enquête à Thierry Soler à l'époque où il était ministre. Mediapart a refusé une perquisition de ses locaux. locaux ce matin dans le cadre d'une enquête qui concerne les enregistrements diffusés la semaine dernière ici même. Cette conversation téléphonique de fin juillet entre Alexandre Benalla et Vincent Crase, dans laquelle l'ancien collaborateur de l'Élysée se targue d'avoir le soutien d'Emmanuel Macron. L'enquête sur le Levothyrox, désormais ouverte pour homicide involontaire. Le parquet de Marseille a élargi l'information judiciaire pour blessures involontaires.
Le Venezuela va revoir ses relations diplomatiques avec l'Europe.
Conséquence des communiqués qui tombent depuis ce matin de Londres, Berlin, Madrid ou encore Vienne, une quinzaine de pays de l'Union qui reconnaissent Juan Guaido comme président par intérim, puisque Nicolas Maduro a rejeté l'ultimatum qui lui a été fixé et une nouvelle présidentielle. Le Kremlin dénonce l'ingérence des Européens. Les Nations Unies ne prennent pas parti pour garder leur crédibilité. Qu'en est-il à Caracas ? Bonsoir Olivier Poujade.
Bonsoir Sébastien.
Le rapport de force penche encore un peu plus pour Guaido et cela pourrait changer leur quotidien dans les prochains jours aux Vénézuéliens avec la possible entrée d'aide humanitaire dans le pays.
Ce sera l'un des moments clés, de cette crise politique. La stratégie des pays étrangers et de l'opposition vénézuélienne ici, c'est de mettre Nicolas Maduro au pied du mur, de provoquer une réaction au moment où les camions humanitaires, probablement d'ici une semaine, entreront sur le territoire vénézuélien. Une stratégie qui comporte, bien sûr, des risques. Risques qu'évoque pour nous l'avocat spécialiste en droit international, Jesús Oliarbes.
Le monopole de la force des armes est encore entre les mains du président Nicolas Maduro. Il a désormais l'obligation concrète de voir comment il utilise ce monopole. S'il continue de s'en servir pour tuer les Vénézuéliens ou s'il s'en sert dans le respect du droit national et international pour préserver la paix et la sécurité internationale.
Voilà, la pression sur Nicolas Maduro est encore un peu plus forte aujourd'hui. Va-t-il prendre le risque de s'afficher aux yeux du monde comme un tyran qui refuse l'aide d'urgence dont a besoin sa population ? On manque de tout ici, plus de médicaments, de la nourriture au compte-gouttes. Les gens font la queue pour espérer acheter une boîte d'œufs dont le prix peut être multiplié par 10 dans la même journée. Mais beaucoup de personnes sont convaincues aussi ici que Nicolas Maduro est encore capable du pire.
Olivier Poujade, merci Olivier, en direct de Caracas. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau annonce lui une aide de 35 millions d'euros pour les Vénézuéliens, notamment pour les près de 3 millions de réfugiés. Le pape poursuit sa visite aux Émirats Arabes Unis, la première de l'histoire. Il célébrera une messe demain dans un stade d'Abu Dhabi pour les fidèles catholiques qui sont essentiellement des travailleurs immigrés des Philippines et d'Inde. Et il participait aujourd'hui à une réunion interreligieuse internationale où il a plaidé, Mathilde Inverti, pour la liberté religieuse.
C'est une forte condamnation de la guerre qui se fait entendre dans la nuit d'Abu Dhabi. Au pied de buildings luxueux des riches émirats et devant un parterre de dignitaires religieux, le pape François martèle, rien ne justifie les conflits armés.
La guerre n'amène rien d'autre que la misère. Les armes n'apportent que la mort. Ces conséquences tragiques sont sous nos yeux. Je pense en particulier au Yémen, à la Syrie, à l'Irak et à la Libye. Engageons-nous ensemble contre la logique de la force armée.
La question du conflit au Yémen n'est pas occultée alors que les Émirats arabes unis y participent, pas plus que celle des inégalités manifestes dans ces riches pays pétroliers. Enfin, le pape touche un thème sensible dans cette région, la liberté religieuse.
La liberté religieuse ne se limite pas à la liberté de culte, mais voit dans l'autre un frère. La liberté est le droit de chacun. Chacun jouit de la liberté de croyance, d'expression et d'action.
En fin de cérémonie, symboliquement, des feuilles d'olivier sont projetées dans le ciel et une vidéo sophistiquée loue la paix entre les religions. Le pape François signe avec le grand imam de l'université Al-Azhar une déclaration commune les engageant à lutter contre l'extrémisme. Abu Dhabi, Mathilde Imberti, France Inter.
Que deviennent les réfugiés de l'Aquarius 6 mois et demi après leur arrivée en France? Ils étaient 78 pris en charge mi-juillet après leur débarquement en Espagne. 78 dont 42 Soudanais accueillis à Lille. Ils vivent dans des locaux d'une ancienne maison de retraite mise à disposition par la ville et encadrée par l'association La Sauvegarde du Nord. Et c'est là que Cécile Bideau est allée les voir.
C'est l'heure d'un cours de français dispensé par des bénévoles. Tous les jours, même plusieurs fois par jour, ils suivent des leçons, apprendre la langue, mais aussi savoir se débrouiller dans la vie quotidienne.
Je m'appelle Saber. Pour moi, c'est un petit peu difficile, hein, le français.
Le jeune homme se débrouille déjà très bien. Son rêve, c'est de devenir traducteur pour aider les réfugiés comme lui. Les 42 Soudanais qui vivent ici depuis le 12 juillet ont obtenu ce statut.
Je suis très content d'être ici, j'ai été bien accueilli. J'espère que tous mes rêves vont se réaliser. Déjà, je rêvais de la France, de parler français, et tous mes rêves commencent à se concrétiser.
Deux d'entre eux ont déjà un travail, un CDI dans un restaurant. Martin-David Brochen est le directeur du pôle inclusion sociale de la Sauvegarde du Nord, l'association qui encadre ces réfugiés. Il constate tous les jours leur motivation.
Pas d'absentéisme au cours de formation, les formateurs en étaient même parfois étonnés, une volonté farouche de tout savoir de la culture française. Non, il y a une vraie envie de rester durablement ici et de s'intégrer vraiment durablement.
Cet accueil est prévu pour un an jusqu'en juillet prochain. Tous espèrent d'ici là avoir trouvé un logement et un emploi.
Reportage signé Cécile Bideau de France Bleu Nord. Eux ont subi des inondations ces derniers mois, notamment à Trèbes. Les viticulteurs de l'Aude recevaient le ministre de l'Agriculture. Aujourd'hui, visite minutée Stéphane Iglesis pour discuter indemnisation.
Le ministre avait un programme chargé ce matin. Au menu, la rencontre du maximum de viticulteurs dans le minimum de temps. Il est donc allé en 3 heures chrono à Narbonne, puis à Trèbes et enfin à Conques-sur-Orbiale, près de Carcassonne. Là, les viticulteurs montrent des parcelles emportées par les flots, les pieds arrachés, et ils s'inquiètent de ce qui n'est pas assurable et remplaçable. Franck Saillant, viticulteur près de Conques-sur-Orbiale.
Ça a été un amoncellement de pierres, de gravats, des véhicules, des frigos. Il y a eu de tout dans beaucoup d'embâcles, de bois, voilà. Et une partie que j'ai pas réussi à remonter avec la solidarité que je devrais arracher. Sur les 10 hectares, il y a 1 hectare que je vais devoir arracher. Donc c'est une perte sèche pour l'exploitation très importante.
Le ministre promet environ 7 millions d'euros aux agriculteurs et il souhaite que les assurances soient plus présentes dans le monde agricole.
Quand vous achetez un appartement, vous êtes obligé de l'assurer. Quand un artisan achète une petite entreprise ou un commerce, il est obligé de l'assurer. Ben, en agriculture, on n'est pas obligé. Qui est le plus touché quand il y a des accidents climatiques, des accidents de la nature? C'est l'agriculture.
Quant au glyphosate, Didier Guillaume confirme son élimination à 80% pour 2021. Il précise tout de même qu'il ne laissera pas les viticulteurs sans solution ou alternative et il indique avoir demandé à l'INRA d'accélérer ses recherches dans ce domaine. Conques-sur-Orbiale, dans l'Aude, Stéphanie Iglesis, France Inter.
Il y a un corps dans l'épave de l'avion qui transportait Emiliano Sala entre Nantes et Cardiff. Les images sous-marines de l'équipe qu'il a localisées par 67 mètres de fond sont formelles. Bonsoir Antoine Gignot.
Bonsoir.
Mais impossible Antoine pour l'heure de dire s'il s'agit du footballeur argentin ou de son pilote disparu il y a 2 semaines.
Absolument. Sur les photos prises par un robot télécommandé, on aperçoit le fuselage abîmé mais encore entier. Les numéros d'immatriculation sont bien visibles, tout comme la silhouette d'un homme pour l'instant non identifié, effectivement, qui se détache à l'intérieur du cockpit. L'avion qui transportait le footballeur repose par près de 70 mètres de fond au nord de l'île de Guernesey, à mi-chemin entre la France et l'Angleterre, une zone de profondeur moyenne, accessible pour des plongeurs. Mais même si la famille du footballeur, comme celle du pilote, réclame le repêchage de l'épave, l'opération n'aura pas lieu avant plusieurs mois, peut-être plusieurs semaines. Le Piper Malibu pèse près d'une tonne, il mesure 9 mètres de long pour 13 mètres d'envergure. Il faut donc, pour le sortir de l'eau, des conditions météo propices. On utilise des flotteurs, une ligne de relevage, parfois les deux en même temps. L'opération pourrait permettre de remonter les corps, tout en comprenant enfin les causes de l'accident.
Antoine Gignot, merci en direct de Londres. On part maintenant dans l'Hérault pour terminer à la frontière avec le Tarn, le village de Courniaux, 600 habitants et une famille coincée depuis le 24 janvier à cause de la neige. Un couple de personnes handicapées et leurs 2 enfants majeurs. Ils sont installés là depuis 6 mois avec leurs dizaines de chiens, leurs dizaines de chevaux et ils demandent que le chemin d'accès à leur maison soit déneigé. Mais la mairie n'a pas les moyens humains et matériels pour le faire. Bonsoir Rémi Brancato.
Bonsoir.
Elle a quand même ravitaillé cette famille dont le sort suscite beaucoup d'émotions dans la commune.
Oui, 15 à 30 cm de neige décongère par endroits sur les hauteurs de Courniaux à plus de 800 mètres d'altitude. Ce n'est pas vraiment étonnant en plein hiver, mais pour la famille Colombo arrivée il y a 6 mois, c'est la mauvaise surprise. Le chemin d'un kilomètre pour accéder à leur maison est impraticable. Maud, la fille, explique à France Bleu Hérault qu'elle s'inquiète pour ses parents tous deux handicapés.
La mairie, on nous a dit, mais quand on est dans ces situations-là, on n'habite pas dans une maison isolée. Je suis désolée, nous, on a choisi cette maison parce qu'on a des animaux et que comme ça, on n'embête personne et puis que nous, on est tranquille. Et qu'on pensait que ce chemin serait déneigé.
Un élu de la mairie a tout de même bravé la neige pour les ravitailler avec de l'eau, de la nourriture pour les animaux et de l'essence pour le groupe électrogène puisque les panneaux photovoltaïques sont recouverts de neige. Mais la maire de la commune, Catherine Sonzoni, n'a aucun engin pour déneiger le chemin en terre.
C'est pas difficile d'accès si on a les véhicules pour. J'ai X familles qui sont dans le même cas. Mais ce sont des gens qui, au départ, ont prévu les choses. La ferme qui a 400 mètres, ils ont le même problème, si vous voulez. Mais en même temps, ils ont quand même des moyens personnels pour pouvoir y faire face.
L'élu qui répondait à France Bleu Héros se dit dépassé. Elle a reçu des centaines de mails d'insultes depuis hier, depuis que la presse a relayé l'affaire. Les gendarmes ont contacté la famille pour poursuivre les ravitaillements. Il ne reste plus qu'à attendre la fonte des neiges.
Et les prévisions météo. Merci Rémi Brancato.